Midi 1, Karima, Matin Famille.
Et nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique pour parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat et la santé mentale. Docteur Atman Lorabi, bonjour, ravi de vous recevoir aujourd'hui dans Matin Famille.
Bonjour Karima, c'est toujours un plaisir d'être votre invité et bien sûr bonjour à tous les membres de l'équipe.
Tout plaisir est pour nous, Dr Atman Lorabi. Alors en premier lieu, pourquoi est-ce que ces dernières années, avec justement l'éclosion plutôt de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de santé mentale, de nouveaux symptômes, troubles psychologiques? À quel degré cela est-il vrai et comment l'expliquer si c'est le cas?
Alors, il s'agit plutôt donc de choses qui sont liées et au développement de l'entrepreneuriat et aussi au développement des outils d'information, hein, des technologies de l'information, notamment par rapport à l'utilisation massive de ressources numériques, de téléphones, etc. Et aussi, je pense, aussi parce que on a de plus en plus de grands patrons de sociétés mondialement connues qui étaient des start-up, donc des entreprises, enfin l'archétype de l'entreprise hasardeuse, et qui se retrouvent aujourd'hui parmi les plus riches du monde avec, enfin je ne vais pas les nommer, mais avec notamment des mythes autour de ces personnalités, comme quoi ils lisent X livres par jour, comme quoi ils dorment sur leur lieu de travail, comme quoi ils travaillent plus de 16 heures par jour. Enfin, c'est toute cette image qui a un petit peu émergé, je dirais peut-être pendant ces 20 dernières années, de qu'est-ce que c'est l'entrepreneur qui réussit dans son business et qui va aboutir à une série, je dirais, d'injonctions et de comportements qui vont faire qu'on va être plus en proie à des troubles mentaux. Alors, il faut savoir que les personnalités en général, enfin, quand on fait des recherches sur quelles sont les personnalités types pour les entrepreneurs, il y a des traits de caractère qui reviennent assez souvent, mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que chez à peu près un entrepreneur sur deux, il y a des troubles mentaux diagnostiqués qui peuvent être de l'ordre de l'hyperactivité, de la dépression, des addictions, etc. Et à partir de ce constat, il y a eu un intérêt croissant sur le mode de vie, le mode de travail de l'entrepreneur type, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs, vous le disiez en introduction, il y a eu plusieurs troubles qui ont été décrits. Le premier s'appelle le workaholisme. C'est-à-dire l'addiction au travail. Donc on parle de gens qui se surinvestissent absolument dans leur travail, qui prennent très peu de temps libre, voire pas du tout, qui sont dévoués corps et âme, par rapport à leur tâche ou leur position, ou on parlait d'entrepreneuriat, donc de leur entreprise, ce qui va donner, comme tout comportement excessif, un risque de troubles addictifs. C'est vraiment le cas. C'est une addiction au travail, c'est une pathologie de nos habitudes. On ne sait plus prendre du temps pour soi, on ne sait plus prendre du temps pour être en société, pour être avec des amis, pour être avec la famille, pour pratiquer du sport. Et tout ça va avoir des répercussions non négligeables, bien évidemment, sur la santé et physique et mentale. À titre d'autres exemples, de nouveaux troubles entre guillemets, même si c'est décrit depuis bientôt une quinzaine d'années, et qui est très très important, c'est la nomophobie. Et c'est probablement peut-être le trouble dont il faut le plus discuter, parce que c'est le plus fréquent aujourd'hui. Quand on parle de nomophobie, ça vient de non mobile phone phobia, donc la phobie qui est liée au fait de ne plus avoir accès à son téléphone. Aujourd'hui, quand on voit, il y a quelques études qui apparaissent dans différents pays, il y a des chiffres extrêmement variables en termes de présence de nomophobie. Ça peut aller jusqu'à 75% des populations concernées, notamment les jeunes et les entrepreneurs. Et en fait, si vous voulez, cette phobie qui peut-être, comme ça de loin, on peut se dire que ça fait sourire. En fait, c'est vraiment quelque chose qui pose de réels problèmes tous les jours concernant et la santé mentale de la personne et la santé physique aussi. Alors, la santé mentale, quand on parle de nomophobie, je disais, c'est une anxiété excessive liée au fait de ne pas pouvoir accéder au téléphone. À quoi sert le téléphone? Le téléphone, à l'ère de la modernité, c'est le contact, c'est surtout beaucoup les réseaux sociaux. Et ouais. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de nomophobie depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Ouais. Et les réseaux sociaux, c'est le moi virtuel, c'est le partage, c'est la fabrication d'un espèce d'alter ego virtuel où on va partager presque en temps réel, on va être gratifié par des likes, on va peut-être interagir avec d'autres gens, et surtout quand on est entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour personne que n'importe quelle start-up a forcément un compte sur certains réseaux sociaux, obligatoirement. Et donc, on est à la recherche des gratifications, des likes. Et c'est un peu le piège, même à un niveau, je dirais, personnel. Le piège dans lequel on tombe, cette récompense immédiate et cette gratification sociale nous font tomber dans l'usage excessif et dans la phobie, dans l'addiction, pardon. Et donc, à partir du moment où on est dans l'addiction, n'importe quel retrait de l'objet de notre addiction va nous causer une peur et une anxiété incroyablement intense. Hein, et justement, je disais que c'était le plus fréquent. Ça intéresse surtout les jeunes. Toutes les études ont démontré que, grosso modo, de 18, alors il n'y a pas eu des populations adolescentes qui ont été étudiées, mais de 18 à 35 ans, vraiment, on trouve des chiffres qui sont supérieurs à 50% de l'homophobie.
C'est énorme.
Donc, ça nous interroge également. Voilà, absolument. Ouais. On nous interroge sur notre manière d'utiliser nos téléphones, et je suis sûr qu'à peu près toutes les personnes qui jetteraient un coup d'œil sur le temps passé sur les écrans, étant donné que maintenant la plupart des téléphones proposent ces données, vont être atterrées. On n'en a pas forcément conscience. Voilà.
C'est vrai.
Donc, à côté de cette alors la nomophobie, justement, je parlais des conséquences. Mm-hmm. Alors, ça expose à de la dépression, ça expose justement à des troubles addictifs, parce que forcément, on est toujours dans la recherche de la récompense immédiate, et il peut y avoir des substances qui se surajoutent, mais surtout une dimension, je dirais, un peu paramédical, c'est-à-dire on n'est pas vraiment dans le médical, c'est le fait que ça va nous causer des problèmes juridiques éventuellement. Pourquoi je dis ça? Ou même au niveau de notre santé physique. Mm-hmm. Quand on a une homophobie, il est à peu près impossible de prendre la voiture sans consulter son téléphone, ce qui expose à des risques de sanctions, à des risques d'accidents. Pour les plus jeunes, c'est quasiment impossible de passer une épreuve scolaire ou au niveau des études supérieures de 3 ou 4 heures sans avoir l'envie d'aller chercher ou au moins de réfléchir ou d'éprouver cette anxiété liée au fait de ne pas avoir le téléphone. Donc c'est un impact qui paraît marginal, mais je pense que nous conviendrons qu'il y a forcément des conséquences néfastes à tout cela.
Ça va très loin.
Oui, absolument.
Et justement, docteur Atmal Lorabi, peut-être, est-ce qu'on peut parler de prévention dans ce cas-là? C'est-à-dire, avant de se lancer, par exemple, dans une aventure entrepreneuriale, est-ce qu'on pourrait mettre en place quelques petites pratiques ou quelque chose à mettre en place, justement, pour éviter de tomber dans ce piège, entre guillemets?
Écoutez, si on veut vraiment parler d'entrepreneuriat au vrai sens du terme, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner par des mentors. Ouais. Ce sont souvent des personnes qui ont eu l'expérience de toutes ces choses-là, parce que je pense qu'il n'y a pas de manuel du parfait entrepreneur et de comment se gérer quand on est entrepreneur. Il y a des basiques qu'il faut absolument garder en tête, c'est-à-dire la pratique du sport régulière, le fait d'avoir une alimentation équilibrée. Ce sont des détails qui paraissent absolument anodins, mais comme il s'agit de performer, quand on est entrepreneur, c'est une période de notre vie où il faut performer, il faut être très performant pour lancer un business. Et forcément, quand on est sous ce stress qu'on s'impose, l'alimentation et le sport, comme je le disais, s'imposent. Après, il y a des règles que certains n'hésitent pas à adopter, c'est-à-dire peut-être que on en parle dans d'autres pays, à savoir le fait de se déconnecter, de sortir de la sphère mental hein, du travail pendant certaines heures creuses, vaquer à d'autres occupations, toujours donner de l'importance au lien social parce que
ne pas s'isoler, vivant, voilà. C'est vrai.
Absolument. Donc c'est au final, c'est tout ce qui est lié au fait d'avoir une bonne hygiène de vie et de se faire accompagner par des aînés qui ont eu l'expérience de ce genre de je dirais de période particulière dans la vie.
Merci beaucoup, docteur Atmal Lorabi, de nous avoir éclairé à ce sujet. C'était un plaisir de vous recevoir et on
Merci
se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah.
Inch'Allah, à mardi.
Merci beaucoup. Ciao, ciao.